France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Aujourd'hui, on fête un anniversaire majeur, les 10 ans de la première détection d'ondes gravitationnelles. C'est l'acte de naissance d'un nouveau type d'astronomie. Quelle perspective cette découverte a-t-elle ouverte ? Les ondes gravitationnelles sont d'infimes déformations de l'espace-temps, provoquées par des objets extrêmement massifs. Comme lorsqu'on jette une pierre dans un lac, les ondulations qui se propagent à la surface de l'eau ressemblent à ces vagues qui traversent l'univers. Prédites par Einstein en 1916, lui-même pensait qu'il serait impossible de les détecter. Après avoir été traqué pendant 50 ans aujourd'hui, nous en avons identifié environ 300 et nous sommes déjà en train de construire les instruments de demain. Comment l'histoire de l'astronomie gravitationnelle continue-t-elle de s'écrire ? Ondes gravitationnelles, les 10 ans de la nouvelle vague. Frédéric Marion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire d'Annecy de physique des particules, spécialiste des ondes gravitationnelles et médaille d'argent du CNRS 2017. Bonjour Éric Gourgoulon.
Bonjour.
Vous êtes physicien théoricien, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'études de l'univers et des phénomènes extrêmes de l'Observatoire de Paris et également médaille d'argent du CNRS. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture et puis merci à vous également d'être là au rendez-vous en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur notre fil podcast de l'appli Radio France et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors pourquoi a-t-il fallu près d'un siècle pour mettre la main sur une onde gravitationnelle ? Que nous enseignent ces ondes-là ? Et quels sont les futurs détecteurs géants en cours de construction ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, il y a 10 ans, le 14 septembre 2015, l'interféromètre LIGO détecte enfin un signal, une découverte récompensée 2 ans plus tard par un prix Nobel. C'est notre archive du jour.
La détection des ondes gravitationnelles honorée par le Nobel de physique, ce n'était pas une surprise. Il s'agit en effet d'une des plus importantes découvertes des dernières décennies en la matière. Benoît Mours est directeur de recherche au CNRS. C'est le responsable français de l'un des 3 instruments à l'origine de cette détection.
On a tout d'abord une vérification de la théorie de la relativité générale, qui est la théorie qui pilote l'univers, qui fait que la Terre tourne autour du Soleil, que le Soleil tourne dans sa galaxie. Et à côté de ça, c'est un nouveau moyen de voir l'univers. C'est comme si un nouveau sens apparaissait après avoir la vision des télescopes. On a lui qui se révèle à nous avec les ondes gravitationnelles. Alors, ce sont pas du tout des ondes acoustiques, mais c'est un moyen de voir l'univers d'une autre manière. On peut imaginer que ça va nous ouvrir des tas de perspectives pour les découvertes à venir.
Des découvertes à venir, elles devraient être nombreuses puisque l'astronomie gravitationnelle, comme on l'appelle, en est à ses balbutiements. Le début d'une histoire alors qu'il a fallu un siècle entre la théorie d'Albert Einstein et la première détection.
Voilà, le journal de RFI en 2017 et le prix Nobel de physique pour les Américains Barry Barish, Kip Thorne et Rainer Weiss qui nous a quittés le 25 août dernier. Alors c'est une grande collaboration tout ça, mais Frédéric Marion, vous avez aussi participé, vos travaux ont aidé à faire cette détection. Ce prix Nobel, ce n'était donc pas une surprise.
Non, c'était pas une surprise, mais c'est vraiment très émouvant de l'évoquer puisque, comme vous disiez, Ray Weiss vient de disparaître et c'était vraiment une figure très très respectée, très aimée de la communauté des ondes gravitationnelles. C'était un des pères fondateurs des détecteurs LIGO, donc un des lauréats du prix Nobel de physique 2017 et qui a vraiment eu une influence décisive pour que ces instruments voient le jour.
Décisive, on entend aussi souvent, Éric Gougoulon, par rapport à cette découverte, on entend que pour l'astrophysique, cette découverte c'est un peu ce qu'a été celle du boson de Higgs pour la physique des particules.
C'est-à-dire que ça ouvre effectivement une nouvelle fenêtre pour l'astrophysique. Avant, l'astrophysique, le vecteur du signal, ce qui nous amenait des informations sur l'univers, c'était les ondes électromagnétiques transportées par les photons. Et là, on est dans un tout autre domaine. C'est des ondes de l'espace-temps lui-même. C'est pas des ondes qui voyagent dans l'espace-temps. C'est l'espace-temps qui vibre lui-même. Et donc, c'est effectivement une toute nouvelle fenêtre. Donc, c'est une nouvelle astronomie qu'on appelle l'astronomie gravitationnelle ou l'astrophysique gravitationnelle, effectivement.
Alors, que s'est-il passé précisément, Frédéric Marion, ce 14 septembre 2015? Quel est cet événement cataclysmique que LIGO a détecté?
Eh bien, c'était le tout premier signal d'onde gravitationnelle jamais détecté sur Terre directement, qui avait été émis par la fusion de deux trous noirs. Une fusion cataclysmique à 1,3 milliard d'années-lumière de la Terre, qui s'était propagée jusqu'à nous, et dont les vibrations de l'espace-temps ont été captées par les deux détecteurs de LIGO aux États-Unis.
On parle, Éric Gourgoulon, d'ondes qui ont été générées à plus d'un milliard d'années-lumière de la Terre.
Oui, tout à fait. Et donc ces ondes, elles voyagent à la vitesse de la lumière. Et donc elles mettent effectivement 1,4 milliard d'années pour nous parvenir. Et elles sont toutes petites. Bon, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. C'est très difficile à détecter. C'est pour ça que ça a été détecté seulement un siècle après leur prédiction, puisqu'Einstein les avait annoncés comme conséquence assez naturelle de sa théorie de la relativité générale. Et il y avait des solutions sous forme d'ondes avec propagation à la vitesse de la lumière qui apparaissaient relativement naturellement. Mais voilà, l'amplitude est tellement petite qu'il a fallu attendre un siècle, effectivement, pour les détecter.
J'utilisais cette allégorie de la pierre jetée dans un lac. Frédéric Marion, comment se représenter ce phénomène-là? Comment vous le décrirez?
Alors c'est effectivement utile en fait d'évoquer un plan comme un lac, enfin ou comme un trampoline, et de réduire l'espace physique à deux dimensions plutôt que trois, et en utilisant la troisième dimension pour visualiser la courbure de l'espace-temps, un peu la manière moderne de décrire la gravitation, hein, donc qu'on doit à Einstein, qu'il a élaboré dans sa théorie de la relativité générale, où la gravitation ne se manifeste plus comme une force à distance, mais comme une courbure de l'espace-temps, donc engendré par les objets massifs, et qui va déterminer comment les masses, la lumière se déplacent dans l'espace. Et donc dans cet espace-temps qui devient dynamique, peut surgir le phénomène d'onde gravitationnelle, où quand on a des masses qui se déplacent de manière assez générique, ça va engendrer des vibrations de la courbure de l'espace-temps qui vont se propager dans l'espace-temps lui-même à la vitesse de la lumière.
Éric Gourgoulon, vous aussi, vous avez, une analogie pour nous faire comprendre ce phénomène.
Oui, alors quand on parle de courbure de l'espace-temps, effectivement, ça paraît difficile peut-être de concevoir ça. Ce qu'on peut dire, c'est une représentation mathématique. La courbure de l'espace-temps, c'est une représentation mathématique de la gravitation. Ce sont les mathématiques à la base de la théorie moderne de la gravitation qu'est la relativité générale. Et donc c'est une représentation très différente de la gravitation qui a précédé, qui était la gravitation de Newton, où on ne parlait pas du tout de courbure, l'espace était plat, et surtout le temps était bien séparé de l'espace, c'était deux concepts complètement différents qui ont été mélangés avec la théorie de la relativité. Et ce qu'on peut dire quand même, donc c'est une représentation mathématique, mais c'est extrêmement bien vérifié, cette courbure de l'espace-temps, au voisinage de la Terre. On a de nombreuses expériences qui montrent qu'effectivement l'espace-temps est bien courbé au voisinage de la Terre. C'est des effets très petits, il faut des horloges atomiques pour le mettre en évidence, mais c'est quelque chose qui est vérifié quotidiennement. Donc voilà, c'est bien établi que l'espace-temps est courbe.
Voilà, c'est la révolution d'Albert Einstein, de dire que l'espace et le temps sont dynamiques et ils sont liés. L'univers se courbe en raison de la masse. Vous avez dit, Éric Gourgoulon, que ces ondes gravitationnelles, ce sont les conséquences naturelles de la relativité générale. Alors comment la prédiction d'Einstein est-elle née?
Alors Einstein, il a écrit l'équation que depuis on appelle évidemment l'équation d'Einstein, qui dit comment, qui donne la valeur de la courbure en fonction du contenu en matière, et notamment des vitesses des corps, des accélérations plus précisément, parce que c'est l'accélération des corps qui est à la source des ondes gravitationnelles, par exemple. Et donc, cette équation, elle est valable pour des corps très massifs, compacts, ou des corps moyennement massifs. Enfin, elle est valable pour tous les corps dans l'univers, et y compris pour des objets assez exotiques, donc dont je pense, on va beaucoup parler ce soir, les trous noirs. Eh bien, elle est valable pour tous ces objets-là. Et Einstein s'est posé la question, maintenant, si je pars dans mon équation, et si je regarde des petites perturbations par rapport à la situation de champ très faible, comme ici sur Terre, quand le champ gravitationnel est relativement faible, que l'espace est pas loin d'être plat, eh bien, si je regarde une petite perturbation, donc il a fait ce qu'on appelle en physique une analyse perturbationnelle, c'est-à-dire il a fait un développement, ce qu'en mathématiques on appellerait un développement limité au premier ordre, donc il a regardé une petite perturbation et il a linéarisé donc les équations pour décrire la perturbation, et il s'est aperçu que l'opérateur qui apparaissait naturellement, c'est un opérateur d'onde, donc il décrit la propagation d'une onde à la vitesse de la lumière.
voilà, et ce principe des ondes gravitationnelles comme des ondulations de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'au passage du non-gravitationnel, l'espace se dilate puis se contracte. Frédéric Marion, il a quand même douté jusqu'à sa mort de l'existence même des ondes gravitationnelles.
Oui, alors pendant longtemps, il y a eu un doute sur le fait qu'elles existent vraiment, c'est-à-dire que ce ne soit pas simplement un artefact de la théorie, mais que ça corresponde à un effet physique réel. Et puis, une fois ce premier doute levé, il y a eu le doute qu'elles puissent être jamais détectées en raison de la petitesse de l'effet. En fait, c'est un petit peu paradoxal, parce que les ondes gravitationnelles transportent des énergies colossales, mais l'espace est tellement rigide que même avec ces énergies colossales, les distorsions sont absolument infimes.
La petitesse de l'effet, c'est-à-dire qu'on parle d'une déformation de l'espace-temps, de comment justement on peut se représenter cette petitesse de ce phénomène.
Oui, donc en termes de perturbation relative de l'espace, on est au niveau de 10^-21. Ce qui veut dire que si on considère des distances de référence de plusieurs kilomètres, ce qui est le cas dans les détecteurs terrestres dont on dispose aujourd'hui, les variations de ces longueurs qu'il va nous falloir mettre en évidence, elles se situent au mieux au niveau de 10^-18 mètres. Ça, c'est pour les ondes gravitationnelles les plus intenses qu'on reçoive sur Terre, ce qui correspond à un millième de la taille du proton, le plus petit noyau d'atome. Donc voilà, ça donne une mesure de la difficulté expérimentale.
Éric Gourgoulon, en effet, une difficulté expérimentale, pendant jusqu'en 2015, hein, il y en avait encore beaucoup de sceptiques également.
Ah oui, effectivement, Frédéric mentionnait tout à l'heure, est-ce que c'était pas au début un artefact mathématique ? C'est la question que se posait Einstein, puisque ce calcul perturbatif qu'il a effectué, c'est dans un certain système de coordonnées pour décrire l'espace-temps. Et à l'époque, c'était pas du tout clair s'il s'agissait vraiment d'un effet physique, dans le sens où il aurait pu utiliser des coordonnées qui, en fait, oscillent. C'est-à-dire, c'est les coordonnées qu'on utilise pour décrire la position des objets dans l'espace-temps. Si vous prenez un mauvais système de coordonnées, par hasard, vous pouvez avoir un système oscillant alors que les objets ne bougent pas, par exemple. Enfin, voilà. Donc, c'est ce genre de questionnement qui a dominé pendant une bonne partie du XXe siècle. C'est seulement dans les années 50 et 60 qu'on s'est convaincu, que les physiciens théoriciens sont convaincus de la réalité du rayonnement gravitationnel.
Ils sont convaincus et ils vont en effet mettre la main dessus. Alors, quels sont ces objets exotiques qui sont capables d'émettre ces ondes gravitationnelles ? Restez avec nous.
Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
En direct sur France Culture, on continue de surfer sur les ondes gravitationnelles avec Frédéric Marion et Éric Gourgoulon. On vient de voir que ces ondes gravitationnelles, ce sont des oscillations de l'espace-temps, des déformations qui sont à mettre en évidence, qui ne sont guère plus grandes qu'un milliardème de la taille d'un atome. On comprend toute la difficulté à mettre la main dessus. Avant de parler justement des instruments et des principes de l'interférométrie laser, déjà peut-être on peut dire d'où viennent ces ondes gravitationnelles. Frédéric Marion, quels sont les astres et les objets qui sont capables de faire vibrer l'espace-temps ?
Alors, pour avoir des ondes gravitationnelles un petit peu intenses, enfin, proportion gardée, donc il faut des masses importantes qui bougent, voilà, de manière importante. Et donc, la source canonique d'ondes gravitationnelles, c'est un système binaire de deux astres compacts, donc qui se tournent autour, donc astres compacts, trous noirs ou étoiles à neutrons. Et donc, ça, c'est les sources d'ondes gravitationnelles les plus intenses, et ce sont tous les signaux qu'on a détectés jusqu'à présent sont de cette nature. Essentiellement des couples de trous noirs, mais aussi quelques sources étoiles à neutrons et trous noirs, et deux événements qui étaient la fusion de deux étoiles à neutrons. Ce sont les plus rares dans nos échantillons d'observation.
Éric Gourgoulon, donc la coalescence de trous noirs, la fusion de deux trous noirs, c'est ce qui continue la source la plus nette d'ondes gravitationnelles.
Oui, c'est la plus, comme disait Frédéric, la plus intense et de loin. Les trous noirs sont des objets qui eux-mêmes, au niveau du trou noir, il y a une très forte courbure de l'espace-temps. Et donc c'est l'événement le plus dynamique qu'on puisse imaginer dans l'univers à l'heure actuelle. gravitationnelle, c'est quand deux trous noirs s'approchent. Donc en émettant des ondes gravitationnelles, ils perdent de l'énergie. Et comme tout objet autogravitant qui perd de l'énergie, les orbites se rétrécissent, c'est-à-dire les objets se rapprochent et petit à petit se rapprochent tant et si bien qu'ils vont finir par fusionner. Et ça, c'est cette phase finale qui est observée aujourd'hui dans les détecteurs. Et ça, c'est un événement très dynamique où là, l'espace-temps vraiment oscille énormément. D'ailleurs, au niveau même de l'événement, on peut même pas distinguer les ondes du reste de l'espace-temps. On parle d'ondes quand on est loin en champ faible, en champ gravitationnel faible, et là on peut voir des petites rides se propager sur un substrat qui est plus ou moins stationnaire. Au niveau de la fusion elle-même, on ne distingue pas, tout l'espace-temps oscille énormément, et on a un événement le plus dynamique qu'on puisse imaginer.
Selon la théorie d'Einstein, tout corps massif peut déformer l'espace-temps et générer ces ondes-là. Elles sont donc produites par un gros mouvement de masse. Est-ce qu'on a d'autres corps célestes qui seraient capables de produire ces ondes-là, Frédéric Marion?
Alors oui, et donc un des rêves des astronomes des ondes gravitationnelles, ce serait d'arriver à capter une onde gravitationnelle qui serait produite dans l'effondrement d'une étoile massive en fin de vie, dans ce phénomène qu'on dit de supernova, qui correspond plutôt à l'explosion des couches externes de l'étoile. Mais ce qui se passe au centre, en fait, c'est que le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même pour laisser derrière lui soit une étoile à neutrons ou un trou noir. Et il n'y a pas de raison que ce phénomène-là n'émette pas d'ondes gravitationnelles, mais c'est vraisemblablement un signal encore beaucoup plus ténu que celui des coalescences de systèmes binaires d'astres compacts. Et donc ça, voilà, ça reste sur nos tablettes.
Oui. Eric Gogolo.
Oui, on espère que la prochaine génération de détecteurs, notamment, nous permettra d'observer ça, ce signal de l'effondrement gravitationnel, qui serait extrêmement intéressant pour l'astrophysique, pour la compréhension de la formation des trous noirs. Je pense qu'on n'en est peut-être pas très loin de l'observer, effectivement, mais c'est la deuxième source, effectivement, la plus importante d'ondes gravitationnelles après la fusion des systèmes binaires.
Donc là, on comprend bien, par rapport à ces sources d'ondes gravitationnelles, comment, justement, le fait de les étudier, ça nous permet de mieux comprendre ces objets-là, Frédéric Marion?
Oui, alors les ondes gravitationnelles, ça nous intéressait de les détecter déjà pour elles-mêmes, je veux dire pour valider, voilà, c'est le dernier élément de la théorie qui résistait encore à l'expérimentation, et puis pour les utiliser, pour tester la gravitation, notre compréhension de la relativité générale, vérifier leurs propriétés. Mais ça, c'est qu'un volet de l'histoire. Et l'autre volet, c'est qu'effectivement, on peut les utiliser pour apprendre des choses sur les sources qui les émettent. Donc faire de l'astrophysique, faire de la cosmologie, utiliser les ondes gravitationnelles pour mesurer l'évolution de l'univers. Donc un champ d'application qui est vraiment multiple et assez vaste.
Éric Gogolon, en quoi sont-elles complémentaires des ondes électromagnétiques, par exemple?
Grâce à elles, on peut voir des choses qu'on ne verrait pas du tout en ondes électromagnétiques. Par exemple, il y a quelques années, avec des collègues, en 2018, on a étudié comme source future pour l'ISA, on va peut-être en parler tout à l'heure, le détecteur spatial ISA. L'ISA pourra détecter des petits corps en orbite autour du trou noir massif qui est au cœur de notre galaxie, qu'on appelle Sagittarius A étoile. Et donc le mouvement orbital de n'importe quel corps autour de ce trou noir émet des ondes gravitationnelles en plein dans la bande de l'ISA. Et notamment, comme ça, on pourrait voir des trous noirs primordiaux de très faible masse. Par exemple, des trous noirs qui auraient la masse de la Terre ou la masse d'une planète. Ça, à l'heure actuelle, ce genre de petits trous noirs, on ne peut pas le voir par les ondes électromagnétiques. Ils sont trop petits, ça ne donnerait pas lieu à des phénomènes observables. C'est des trous noirs hypothétiques qui seraient formés dans l'univers primordial. On n'a pas de scénario astrophysique standard pour les former, contrairement à l'effondrement gravitationnel dont parlait Frédéric tout à l'heure, et qui conduit à des trous noirs de quelques masses solaires. Donc là, je parle plutôt de trous noirs qui auraient la masse de la Terre et qui auraient pu être formés dans l'univers primordial. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Si un jour, l'ISA observe ces petits trous noirs, par exemple, peut-être elle ne les verra pas, je ne dis pas que c'est une source garantie pour l'ISA, mais ça vous donne une idée d'un objet que les ondes électromagnétiques ne pourraient pas voir. Et la fusion de deux trous noirs elles-mêmes, les événements observés, le premier événement observé, par exemple, là on a deux trous noirs, donc par définition ça n'émet pas d'ondes électromagnétiques, et là il n'y a pas de contrepartie électromagnétique. Les ondes gravitationnelles sont vraiment le seul moyen d'observer ce genre de phénomène.
Frédéric Marion, c'est-à-dire que là aujourd'hui, en tout cas avec les détecteurs dont on dispose, ces ondes gravitationnelles, elles nous permettent d'étudier les caractéristiques globales de ces astres, mais ça veut dire qu'on a, pour chaque source, on obtient des signatures très précises.
Oui, c'est-à-dire que le signal que l'on mesure, il porte en lui l'information sur les paramètres de la source qui en était à l'origine. Et en particulier, en analysant le signal, on peut remonter aux masses des deux objets, c'est très intéressant, et aussi dans une moindre mesure à leur moment angulaire, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ils tournent sur eux-mêmes. Et donc voilà, il va y avoir des événements qui sortent un peu du lot, qui sont particulièrement intéressants en eux-mêmes. Et puis il y a toute la cohorte des événements qu'on analyse de manière statistique pour mieux comprendre de quoi est faite cette population de systèmes binaires qui fusionnent et qu'on voit en ondes gravitationnelles.
La fréquence caractéristique du signal d'une onde gravitationnelle est liée à la masse du système et décroît avec celle-ci.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les détecteurs interférométriques terrestres actuels, donc ils fonctionnent autour d'une centaine de Hertz, ils sont sensibles aux coalescences de systèmes binaires de trous noirs stellaires, c'est-à-dire qui ont des masses de quelques dizaines de fois la masse du Soleil, on va dire. Et pour des trous noirs beaucoup plus massifs, comme les trous noirs supermassifs qu'on trouve au centre des galaxies, la fréquence finale de la coalescence se produit à beaucoup plus petite valeur, donc à beaucoup plus basse fréquence, donc dans une gamme de fréquences distinctes.
Et on verra comment justement ces nouvelles générations de détecteurs cherchent à partir à la quête de ces fréquences basses. Mais d'abord, aujourd'hui, on a donc LIGO et Virgo. C'est le principe de l'interférométrie laser, Éric Gourgoulon. Alors, on a mis des décennies à construire des instruments capables de repérer ces ondes gravitationnelles et d'être très sensibles. Quel est, grosso modo, le principe de l'interférométrie laser ?
Je peux répondre, mais peut-être, Frédéric, toi, tu es en plein dans Virgo, c'est peut-être...
Oui, c'est un peu le rayon des expérimentateurs, ça. Donc, pour détecter des ondes gravitationnelles, il faut mettre en évidence ces déformations de l'espace-temps qu'elles véhiculent, et donc mesurer ces variations de distance entre des points de repère. Donc, nous, ce qu'on va utiliser, en fait, c'est en guise de point de repère des miroirs suspendus qu'on dispose en forme de L, et on va utiliser la lumière d'un faisceau laser pour mesurer les distances entre ces miroirs. Et au passage d'une onde gravitationnelle, donc les bras du L vont se déformer de manière opposée. Donc un bras va s'allonger pendant que l'autre se raccourcit, et inversement. Et donc ça va modifier l'intensité lumineuse qui est mesurée en sortie de l'interféromètre. Et c'est ça qui va nous permettre de capter le passage du signal.
C'est ça, c'est que si on voit que la lumière est modifiée, c'est qu'une onde gravitationnelle vient de passer par là.
Ou qu'il y a une source de bruit de fond, mais en l'occurrence, le signal d'onde gravitationnelle,
très optimiste.
Voilà, il est très caractéristique, et donc on arrive à le mettre en évidence, du moins pour les signaux suffisamment intenses, au milieu de tout notre bruit de mesure.
Donc on a LIGO, qui sont donc en fait finalement deux détecteurs pour une expérience qui est située aux États-Unis, Virgo qui est lui près de Pise, et puis on a aussi un autre détecteur, c'est Kagra au Japon, qui lui est situé à plus de 200 mètres sous terre.
Oui, donc Kagra, c'est le petit dernier, donc il est encore en phase de réglage, donc c'est le détecteur japonais. Et donc l'équipe a fait le choix donc d'un détecteur souterrain et fonctionnant à des températures cryogéniques. Donc être souterrain, ça permet de bénéficier d'un environnement plus stable et donc d'avoir un bruit sismique réduit. Et fonctionner à des températures cryogéniques, ça permet d'abaisser le bruit thermique. Alors ces isolations, elles apportent aussi beaucoup de contraintes en fait, et l'expérience de Kagra, dont la mise en route et les réglages sont très longs et assez difficiles et sont encore en cours, en fait, nous montre que c'est des approches qui sont un petit peu à double tranchant.
Finalement, depuis 2015, quels ont été les progrès sur ces instruments-là, en tout cas ?
Alors, il y a eu tout un ensemble... Bon, déjà, le réseau s'est étoffé, puisque en 2015, la découverte avait été faite avec les deux détecteurs LIGO aux États-Unis. À l'époque, Virgo était encore en évolution vers sa configuration de deuxième génération, et donc a rejoint les deux LIGO en 2017. Et depuis, une bonne partie des observations se font à trois détecteurs. Et d'autre part, mais la sensibilité des détecteurs a beaucoup progressé. Par exemple, au niveau des détecteurs LIGO, ils sont environ trois fois plus sensibles aujourd'hui qu'ils l'étaient en 2015.
Et comment justement travaillons-nous à rendre encore plus sensibles ces détecteurs-là? Quels sont les deux projets d'interféromètres de troisième génération? Et comment les pulsars peuvent-ils constituer des objets d'étude à part entière pour tenter de détecter ces ondes gravitationnelles primordiales? On y vient. Flavien Berger, Gravité, en direct sur France Culture, car on fête un anniversaire aujourd'hui, les 10 ans de la première détection d'ondes gravitationnelles, avec Frédérique Marion, directrice de recherche CNRS au laboratoire d'Annecy de physique des particules, spécialiste des ondes gravitationnelles, et Éric Gourgoulon, physicien, théoricien, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'études de l'Université des phénomènes extrêmes de l'Observatoire de Paris. On vient de voir quelles ont été les prouesses techniques pour mettre en évidence ces toutes petites perturbations de l'espace-temps de l'ordre du milliardième de la taille d'un atome. Il a fallu des lasers très puissants, mais aussi ultra stables et des miroirs quasi parfaits. Frédérique Marion, 10 ans plus tard, nous avons détecté le même événement et en mieux. C'est l'objet d'une publication, une étude qui vient tout juste de paraître dans la revue Physical Review Letters.
Oui, c'est la jolie actualité de LIGO et Virgo. Donc effectivement, au mois de janvier de cette année, on a détecté un signal qui est le plus clair qui a été détecté à ce jour. Et le clin d'œil de l'histoire, c'est qu'effectivement, il correspond à une source qui est une proche cousine de celle qui avait donné lieu à la première détection en 2015. Les trous noirs ont des masses très similaire, la source se trouve à une distance très similaire, donc le signal en gros c'est le même. Ce qui a changé, eh bien c'est la sensibilité des détecteurs qui est aujourd'hui donc 3 fois meilleure, et donc ce qui veut dire que ce signal il ressort 3 fois plus au-dessus du bruit de mesure, et ça nous permet de commencer à faire de la physique un peu plus de précision et à tester certaines lois fondamentales de manière beaucoup plus concluante. Et en particulier, bah, cet événement il nous a permis de vérifier le théorème de Stephen Hawking de la surface des trous noirs, qui prévoyait que la surface du trou noir final, donc résultant de la fusion, devait être supérieure à celle des deux trous noirs initiaux. Et donc on a pu faire cette mesure et démontrer que ce théorème se vérifiait avec cet événement.
Un très beau résultat, ça, c'est vraiment...
Éric Gourgoulou, justement, avec cette physique de précision, avec cette meilleure sensibilité des détecteurs, qu'est-ce que ça permet de tester aujourd'hui?
Ça permet de tester les lois de la gravitation. C'est-à-dire aujourd'hui, la gravitation est décrite par la relativité générale, hein, et cet événement a confirmé de manière assez assez précise la relativité générale. On n'a pas vu d'écart à la relativité générale, mais il y a d'autres théories de la gravitation, notamment ce qu'on appelle les théories tenseurs scalaires, qui sont motivées d'un point de vue théorique. Il y a des raisons de chercher une alternative à la relativité générale. De toute façon, comme toute théorie physique, on ne pense pas que la relativité générale soit la théorie ultime de la gravitation. C'est une très belle théorie, certes, mais bon, la physique procède toujours par évolution, hein. Rien n'est figé en science. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de choses absolues. Et donc, c'est au final l'expérience qui tranche. Jusqu'à présent, l'expérience, et y compris cette toute dernière observation, confirme la relativité générale, ce qui est une bonne nouvelle pour elle. Mais il n'est pas exclu que dans le futur, il y ait une observation qui mette en défaut la relativité générale. Donc aujourd'hui, les physiciens théoriciens font des calculs de formes d'ondes dans ces théories alternatives, et les tests qui sont faits, dont parlait Frédéric tout à l'heure, c'est qu'on compare les signaux reçus par LIGO, Virgo, avec les signaux prédits par ces autres théories. On a tout un panel de théories et on regarde quelle est la théorie qui s'adapte le mieux.
C'est génial, vous venez de résumer, ou en tout cas de parfaitement introduire notre reportage qu'on retrouve dans quelques instants. Avant de parler de la sensibilité des futurs détecteurs, il y a aussi une autre méthodologie que je trouve très intéressante, Frédéric Marion, qui est elle aussi très, très contemporaine. Actuellement, on a plusieurs projets qui suivent des pulsars pour tenter de capter des signaux d'ondes gravitationnelles. C'est un champ d'étude qui s'appelle la chronométrie des pulsars. Alors comment ces astres-là peuvent-ils nous servir de détecteurs ?
Alors c'est un élément du détecteur en fait. Donc les pulsars, ce sont des étoiles à neutrons en rotation qui émettent des ondes radio qui balayent la Terre à intervalles réguliers. Donc ils sont reçus sur Terre, mesurés par des radiotélescopes. Et là, du coup, cette régularité, ça fait qu'on peut utiliser les pulsars comme des horloges naturelles d'excellente qualité, de fait de leur stabilité. Le passage d'une onde gravitationnelle entre un pulsar et la Terre modifierait les temps d'arrivée de ces impulsions radio. Alors avec un seul pulsar, on ne pourrait pas dire grand-chose, mais avec un grand nombre de pulsars, ces petites variations seraient corrélées entre les pulsars et pourraient être mises en évidence. Et il y a effectivement plusieurs réseaux de radiotélescopes dans le monde qui font ces mesures depuis des dizaines d'années et qui commencent à mettre en évidence un signal d'onde gravitationnelle a priori, même si ça demande à être confirmé. S'il se confirme, donc a priori, ce serait un signal de nature stochastique, donc un petit peu un fond aléatoire qui résulte de la superposition des signaux émis par les systèmes binaires de trous noirs supermassifs, donc bien en amont de la phase de coalescence en fait.
Éric Gourgoulon, justement, hein, sur ces signaux qui sont détectés sur cette technique de la chronométrie des pulsars.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on accède à un autre régime que le régime avec LIGO et Virgo, c'est-à-dire le régime des très basses fréquences. Comme vous le disiez tout à l'heure, les très basses fréquences, ça veut dire les très grandes masses. Et donc là, on est des fréquences qui sont de l'ordre du milliardième de Hertz. Et donc, potentiellement, on commence à voir un fond émis par la superposition des signaux de plein de trous noirs supermassifs. Peut-être aussi un jour, dans un futur peut-être proche d'ailleurs, on détectera par cette méthode-là, de la chronométrie des pulsars, un système binaire de deux trous noirs dans deux galaxies, chaque trou noir étant au noyau d'une galaxie, deux galaxies qui sont en train de fusionner, ça on observe couramment dans... On a de belles images de galaxies qui fusionnent hein, en astronomie. Et si chaque galaxie a au centre un trou noir, eh bien les deux trous noirs, à un moment donné, s'ils viennent très proches l'un de l'autre, ils vont fusionner et émettre ces ondes gravitationnelles de très basse fréquence qu'on ne détecte que par la chronométrie des pulsars. Donc c'est extrêmement intéressant pour ça.
Alors prévu pour l'horizon 2040, Frédéric Marion, on a l'interféromètre européen, l'Einstein télescope. Quelles sont les spécificités de ce nouvel instrument ?
Alors, cet instrument, il est conçu comme un détecteur de troisième génération. Donc là, l'idée, c'est de faire un saut qualitatif et quantitatif en sensibilité, de mettre en œuvre des instruments qui seraient un facteur 10 plus sensible que nos détecteurs actuels. Et donc, une meilleure sensibilité, ça veut dire être capable de voir plus loin. Et ces instruments de troisième génération, ben, ils auraient la particularité, en fait, de pouvoir sonder l'univers en profondeur et ces coalescences de systèmes binaires qu'on observe aujourd'hui mais qu'on voit dans un dans un univers malgré tout relativement proche, et bien de pouvoir les voir pratiquement n'importe où dans l'univers et donc à n'importe quelle époque de l'évolution de l'univers. En tout cas pour les systèmes de trous noirs et une bonne partie d'entre eux pour les systèmes d'étoiles à neutrons.
Ça, c'est que l'Einstein Telescope, il est long de 10 km et il est organisé, spécificité là encore, en triangle, si j'ai bien compris.
Oui, alors le design actuel, ce serait...
Et il est souterrain.
Oui, ce serait d'aller sous terre avec effectivement plusieurs interféromètres disposés en triangle.
Mais alors quand vous dites une sensibilité 10 fois plus grande que la génération actuelle d'instruments, ça veut dire c'est la promesse d'être un bon exceptionnel en matière de détection ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on s'enorgueillit d'avoir passé les 300 détections. avec ces détecteurs de troisième génération, on serait plutôt dans les dizaines de milliers ou centaines de milliers. Donc vraiment la statistique.
Et puis avec la potentialité de voir ces signaux nouveaux, donc, comme celui dont on parlait tout à l'heure, celui de l'effondrement du cœur d'une étoile, le phénomène de supernova, de voir ça en ondes gravitationnelles, ça serait fabuleux, puisque quand on voit une supernova, on voit que les régions externes qui sont éjectées, donc on n'a pas accès à ce qui se passe au cœur, on ne voit pas la formation du trou noir. Or, c'est le processus standard de formation des trous noirs aujourd'hui en astrophysique. C'est l'effondrement du cœur des étoiles massives. Donc, voir ça avec l'Einstein Telescope, ça sera vraiment super.
On a l'Einstein Telescope et puis autre instrument de troisième génération, Frédéric Marion, l'interféromètre américain, le Cosmic Explorer, lui, en surface.
Oui, donc les Américains font le choix d'une approche un peu différente. En fait, ce qu'ils envisagent, c'est un super LIGO, pour dire les choses simplement. Donc, faire le même genre d'instrument que ce dont on dispose aujourd'hui dans LIGO, simplement, avec des guillemets à simplement, 10 fois plus long. Voilà, pour une manière relativement simple de gagner l'ordre de grandeur qu'on vise en sensibilité.
Voilà, un instrument long de 40 km. L'idée, on comprend bien, c'est que pour continuer à gagner en sensibilité, et donc pour construire de nouvelles infrastructures, il nous faut des bras de plus en plus grands, avec, on peut penser à l'espace et à LISA, le premier interféromètre spatial, Frédéric Marion.
Oui, alors l'intérêt d'aller dans l'espace, c'est que d'une part, on peut s'affranchir du bruit sismique qui est omniprésent sur Terre et qu'on peut profiter de l'espace et déployer des interféromètres qui, au lieu de faire quelques kilomètres de long, font quelques millions de kilomètres de long. Et ça amène la sensibilité dans une gamme de fréquences autour du millihertz qui se trouve entre les très basses fréquences de la chronométrie des pulsars qu'on évoquait tout à l'heure et la sensibilité des détecteurs interférométriques terrestres autour de la centaine de Hertz.
Éric Grelon.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette bande de fréquences, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de trous noirs supermassifs, dont celui qui est au cœur de notre galaxie, dont je parlais tout à l'heure, Sagittarius à étoile, donc il fait 4 millions de masses solaires. Il est en plein, cette masse-là tombe en plein dans la fréquence de sensibilité de LISA. Mais LISA pourra voir, par exemple, des fusions de deux trous noirs dans cette gamme-là, de la quelques millions à quelques dizaines de millions de masses solaires. Si des fusions comme ça se produisent même très très loin dans l'univers observable, aux limites de l'univers observable, LISA le verra, sur des distances vraiment cosmologiques. Donc ça, c'est aussi très, très, très intéressant.
Voilà, un projet sélectionné par l'ESA en 2017.
C'est sur les rails.
Lancement prévu pour 2035. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce projet, nous avons consacré déjà une heure sur cette fabuleuse aventure avec le podcast Onde gravitationnelle LISA va plus loin. On vient de vous poster le lien. Mais là, tout de suite, on continue avec le reportage du jour. La recherche autour des ondes gravitationnelles a longtemps été purement théorique, puisqu'il a fallu un siècle pour comprendre quelles seraient leurs formes et comment pourrait-on les observer. Mais maintenant que de nombreuses détections ont eu lieu, plus de 300, à quoi s'intéressent les physiciens théoriciens spécialistes des oscillations de l'espace-temps ? C'est le sujet de notre reportage du jour et c'est avec vous Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rendu au laboratoire d'études de l'univers et des phénomènes extrêmes, à l'observatoire de Meudon, pour voir comment on tente de prédire les différentes formes que peuvent prendre ces ondes.
C'est là-bas que travaille Laura Bernard, qui est chargée de recherche au CNRS. À son bureau, sur un premier écran d'ordinateur, à droite, il y avait des lignes de calculs interminables qui permettent d'approximer la première partie des émissions des ondes gravitationnelles, quand les trous noirs ou les étoiles à neutrons n'ont pas encore fusionné. Et sur l'écran d'ordinateur de gauche, il y avait le résultat de ce type de calcul. Des oscillations dessinées sur un graphique qui prennent différentes formes en fonction de la masse ou de l'orientation des astres qui émettent ces ondes. Toutes ces ondulations que j'avais sous les yeux sont obtenues dans le cadre de la relativité générale. Mais aujourd'hui, Laura Bernard va plus loin dans ses travaux. Elle cherche à modéliser des ondes gravitationnelles dans le cadre de théories alternatives à la relativité générale.
Donc là, on a un exemple de quatre formes d'ondes pour des systèmes avec deux trous noirs en rotation l'un autour de l'autre avec des paramètres un peu différents. Et on voit notamment les trois phases de la coalescence dans toutes ces formes d'ondes. Donc il y a la phase de spiralement qui est lorsque les deux objets ils tournent l'un autour de l'autre à des vitesses encore assez faibles et assez éloignées, donc avec un champ gravitationnel assez faible. Et après, quand on se rapproche de la fusion, en fait, le système il perd de l'énergie en émettant des ondes gravitationnelles. Et donc les deux objets vont se rapprocher, ils vont tourner de plus en plus vite. Et donc c'est pour ça que dans notre forme d'onde, les oscillations se rapprochent.
Donc c'est la fréquence de l'onde, oui, qui augmente beaucoup à la fin.
Et en même temps, le champ gravitationnel est plus fort, donc l'amplitude de l'onde aussi va augmenter. Et donc ça, c'est ce qu'on voit, et jusqu'au sommet de cette amplitude qui correspond à la fusion des deux objets. Et après, il y a une phase de relaxation où le trou noir, il se relâche jusqu'à un état stable. En gros, il oscille un peu avant de se stabiliser.
Ça, est-ce qu'on peut donner une image pour essayer de faire comprendre cette partie-là? C'est-à-dire, une fois qu'il y a la fusion, il y a encore du remous un peu au niveau
voilà,
du
c'est des oscillations, en fait. C'est un peu comme si on excitait une cloche, en tapant sur une cloche. Elle va envoyer un son qui va osciller, en gros, et après, elle va se stabiliser. Et donc, c'est un peu comme ça.
La fusion de deux trous noirs, ça fait comme un coup de cloche sur le nouveau trou noir formé.
Voilà, si on veut, quoi. Et à droite, donc ces trois formes d'ondes sont toutes lorsque les deux trous noirs sont sur des orbites quasi circulaires, tandis que en bas à droite, l'orbite ce sera sur une orbite un peu elliptique. Donc ce qui veut dire qu'il y aura des moments où les deux trous noirs sont très proches, mais d'autres où ils seront beaucoup plus éloignés. Et donc là, on voit cette modulation sur les objets qui vont se rapprocher puis s'éloigner. Et donc là, la forme d'onde est beaucoup moins régulière en fait. La fréquence en fait aussi augmente puis rediminue puis augmente selon qu'on se rapproche parce que quand les deux objets sont proches, ils vont aller un peu plus vite, le champ aussi gravitationnel sera plus fort, puis ça va se rediminuer quand ils seront loin l'un autour de l'autre, etc.
Là, les quatre formes d'ondes qu'on a sous les yeux, elles ont été obtenues de manière théorique, mais je sais qu'on a observé un grand nombre de fusions de trous noirs désormais grâce aux différents détecteurs qu'on a d'ondes gravitationnelles. Est-ce que ça a vraiment collé très précisément à la théorie ou est-ce qu'il y avait encore des petits écarts?
Non, ça colle très bien. En fait, quand on détecte une onde gravitationnelle, on va avoir un premier temps où on fait une analyse assez rapide pour voir si on pense qu'il y a un signal. Et après, on fait une analyse plus poussée en prenant ces formes d'ondes théoriques, cette banque de données de formes d'ondes qui décrivent toutes les coalescences pour des paramètres très différents de mes deux objets. Et on va en fait faire une analyse de données en essayant de déterminer quelle est la forme d'onde qui colle le mieux au signal qu'on observe. Et donc ça nous donnera les paramètres de la source qui ont émis justement ce signal d'onde gravitationnelle qu'on détecte sur Terre.
D'accord, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui a émis ces ondes gravitationnelles.
Voilà, c'est ça. Et ça nous permet de déterminer de manière assez précise notamment les masses des deux objets qui ont fusionné.
Cette grande banque de données, avec une diversité de formes d'ondes gravitationnelles, qui nous renseigne sur les événements et les objets à l'origine de ces ondes, elle s'obtient par des calculs à partir de la théorie de la relativité générale. Et ces calculs sont très longs. Certaines simulations numériques prennent jusque plusieurs mois. Aujourd'hui, Laura Bernard cherche à savoir à quoi ressembleraient ces formes d'ondes si on les calculait à partir de théories alternatives, en modifiant certains paramètres de la relativité générale.
Donc les ondes gravitationnelles, c'est une conséquence directe de la relativité générale. Et la relativité générale, on sait que ce n'est pas la théorie, a priori, la théorie ultime, pour des raisons de cosmologie, ou ce n'est pas une théorie quantique de la gravité, donc à différentes échelles d'énergie, on doit la modifier. Donc il y a plein de propositions, et comme les ondes gravitationnelles, c'est vraiment un effet direct de ça, on peut regarder quelle est la modification sur mes formes d'ondes si je modifie un peu la relativité générale, donc ma théorie derrière. Et donc ça, je vais avoir différents effets. Par exemple, si j'ai une théorie où je rajoute un champ scalaire, donc un nouveau moyen de transmettre de l'énergie, en gros, ma fusion va avoir lieu un peu plus tôt parce qu'il va perdre plus rapidement de l'énergie. Donc ça, on peut essayer de modéliser aussi complètement, d'avoir des formes d'ondes complètes dans ces théories alternatives. Mais comme ça prend vraiment très longtemps d'obtenir une forme d'onde complète qui décrit toute la coalescence, on ne peut pas le faire pour toutes les théories qu'on a. Donc on essaie de trouver des méthodes pour tester la gravité avec les ondes gravitationnelles sans avoir à faire refaire tout le calcul qu'on a fait avant et toutes les simulations qu'on a fait, mais dans des théories alternatives.
Et l'idée ensuite, c'est de comparer les résultats. Et quand on compare, on cherche quoi? On cherche à savoir si ce qu'on obtient avec la théorie alternative ressemble plus à ce qu'on observe.
Voilà, c'est ça. En prenant une théorie, on peut voir à peu près l'effet qu'on s'attend à avoir sur notre forme d'onde. Et donc, comme on sait ça, on peut déformer un peu la forme d'onde qu'on a obtenue avec la relativité générale en faisant varier quelques paramètres de manière informée par les théories, mais sans avoir tout le calcul. Et après, quand on va faire notre analyse de données, on va essayer de contraindre ces paramètres, voir s'il y a une valeur qui ne serait pas zéro, qui collerait mieux à ce qu'on observe ou pas.
Et dans les observations, ça nous est déjà arrivé d'avoir justement ce paramètre zéro qui n'est pas totalement aligné par rapport aux prédictions?
Non, actuellement, avec la précision qu'on a des détecteurs, on n'a pas une précision très grande, donc on peut contraindre ce paramètre et toutes les contraintes qu'on a, elles sont en accord avec la relativité générale.
D'accord, mais les prochains détecteurs à venir entraîneront peut-être cette différence-là, et à ce moment-là, ce sera intéressant d'avoir déjà des modèles théoriques qui pourront peut-être expliquer ce qu'on voit, c'est ça?
Exactement. Donc, dans les prochains détecteurs, donc comme LISA, le détecteur spatial, ou Einstein Telescope, qui sera le prochain détecteur européen, on va avoir une précision beaucoup plus grande, on va avoir vraiment beaucoup plus de signaux, etc. Donc, on va pouvoir jouer avec ces signaux pour justement essayer de contraindre avec beaucoup plus de précision ces paramètres. Mais pour pouvoir tirer des conclusions de ce qu'on observe, il faut vraiment avoir une meilleure modélisation de tous les systèmes possibles, à la fois en relativité générale et dans des théories alternatives. Et il faut aussi construire des tests qui soient robustes pour qu'on puisse vraiment dire que si on voit quelque chose, une déviation, déjà c'est dû au fait que la relativité générale n'est pas la théorie ultime. Il faut être sûr qu'il n'y a pas des effets astrophysiques ou des effets dus aux observations, à l'analyse de données. Et après, il faudra être capable aussi de relier cette éventuelle déviation qu'on pourrait voir à une théorie qu'on a proposée.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio sur le terrain pour découvrir la science en train de se fabriquer. C'est notre collection La Science au Labo sur votre appli préférée, l'appli Radio France bien sûr. Frédéric Marion, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Oui, c'est vraiment un travail crucial ce que décrivait Laura Bernard, et c'est vraiment l'enjeu, enfin un des enjeux du futur. C'est-à-dire que dans la détection des ondes gravitationnelles, le premier enjeu, c'était d'atteindre une sensibilité expérimentale qui permette de les détecter. Une fois qu'on a passé ce stade-là et qu'on commence à avoir des signaux qu'on détecte de plus en plus clairement, si on veut passer à l'étape où on fait vraiment de la physique de précision et on fait des tests fins, eh bien, il faut non seulement avoir une compréhension très complète et très fine de nos instruments, mais il faut aussi pouvoir s'appuyer sur des modèles de forme d'onde qui soient absolument robustes. Comme disait Laura Bernard, si on veut être sûr que ce qu'on mesure correspond aux prédictions de la relativité générale, il faut que nos prédictions soient fiables. Sinon, les choses vont être difficiles. Donc, il y a un vrai enjeu crucial.
Éric Gogolon.
Oui, tout ce travail de Laura Bernard, c'est un exemple de ce que je mentionnais tout à l'heure sur cette possibilité, grâce à l'astrophysique des ondes gravitationnelles, de tester la gravitation, de voir si c'est bien la relativité générale ou une autre théorie. Comme le disait Laura dans le reportage, il y a pas mal de motivations pour aller au-delà de la relativité générale, pour considérer ces théories alternatives. La principale d'entre elles étant que la relativité générale est une théorie classique de la gravitation, ce n'est pas une théorie quantique. Et donc, comme vous le savez sans doute, il y a beaucoup de théoriciens qui essayent, depuis maintenant plusieurs décennies, sans grand succès, on va dire, mais qui essayent quand même d'arrache-pied d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale. Ça donne la théorie des cordes, ça donne la gravité quantique à boucle. Il y a différentes pistes qui sont explorées. Et dans beaucoup de ces pistes, en fait, quand on regarde ce qui se passe à basse énergie, c'est-à-dire à l'échelle du système solaire, à notre échelle, eh bien, on trouve la gravitation dans ces théories-là. Ça devient la relativité générale, plus une petite perturbation qui s'exprime souvent sous la forme de ce que Laura a mentionné, qui était un champ scalaire. Et donc, c'est ça qu'on recherche peut-être dans les signaux d'onde gravitationnelle, voir si on ne voit pas l'effet de cette petite perturbation de la relativité générale. Et si oui, alors ça serait indication qu'effectivement, la relativité générale n'est qu'une limite d'une théorie plus vaste, plus sophistiquée, hein, mais quantique de la gravitation. Donc c'est extrêmement intéressant, effectivement, ce genre de recherche.
Autre domaine, autre hypothèse, on l'a évoqué tout à l'heure, les ondes gravitationnelles pourraient aussi nous renseigner sur les pulsars, mais dans la mesure où les pulsars, peut-être, sont capables de produire ces ondes-là. De quelle façon, Éric Gourgoulon ?
Oui, alors, comme on le disait en début, tout mouvement de matière, en fait, plus précisément, toute accélération de matière dans la théorie de la relativité générale, émet des ondes gravitationnelles. Et donc, une façon d'accélérer, c'est d'être en rotation, d'accélérer de manière stationnaire. On peut accélérer soit de manière irréversible, soit accélérer en continu. Et une façon d'accélérer en continu, c'est de tourner. Et si à la surface d'une étoile à neutrons, il y a des petites aspérités, parce que la surface d'une étoile à neutrons, c'est pas comme la surface d'une étoile, c'est quelque chose de rigide. C'est-à-dire, c'est comme une croûte, comme une écorce, en fait. On parle de l'écorce de l'étoile à neutrons. C'est une écorce de fer, en fait, avec un fer très riche en neutrons. Eh bien, s'il y a des petites montagnes à cette surface, alors quand on dit montagne, c'est entre guillemets, parce que l'étoile elle-même fait que 10 km et les montagnes, elles feraient peut-être quelques dizaines de mètres tout au plus. Du fait du mouvement de la rotation, ces petites montagnes vont émettre, ces petites irrégularités vont émettre des ondes gravitationnelles. Si l'étoile à neutrons était parfaitement lisse et symétrique, surtout par rapport à son axe de rotation, il n'y aurait absolument aucune émission d'ondes gravitationnelles. Mais il n'y a aucune raison pour que l'étoile soit complètement symétrique par rapport à son axe de rotation. Il y a certainement des petites irrégularités. Et donc, ça émettrait un signal périodique à essentiellement deux fois la fréquence de rotation de l'objet. Et ça tombe bien quand on regarde les fréquences des pulsars, comme le pulsar du crabe, par exemple, qui fait un tour toutes les 30 millisecondes. Eh bien, il tombe en plein dans la fréquence de Virgo, Virgo-LIGO. Et donc, c'est quelque chose qui est activement recherché, ça, aujourd'hui, dans les détecteurs. Ça n'a pas encore été détecté, mais il y a plusieurs équipes, je crois, qui s'occupent de ça. Enfin, Frédéric, tu peux en parler mieux que moi.
Oui,
des sources stationnaires, quoi, en fait.
C'est un objet de recherche pour la communauté LIGO-Virgo, où effectivement, donc ces étoiles, enfin, on connaît des pulsars, mais il y a beaucoup plus d'étoiles à neutrons qui ne sont pas visées comme pulsars, mais qui sont susceptibles aussi d'émettre des ondes gravitationnelles. Et ça, il y en a beaucoup dans la galaxie, donc on peut partir à une recherche à l'aveugle. Alors, le signal est vraisemblablement extrêmement faible, mais on peut tirer parti du fait qu'il est continu, et donc analyser les données en intégrant le signal. Alors, aujourd'hui, on n'a pas détecté de signal de ce type, ce qui fait qu'on est d'ores et déjà capable de mettre des limites supérieures sur ces fameuses montagnes. Alors, Éric évoquait quelques dizaines de mètres. Je suis désolée, mais les limites qu'on a, c'est que ce serait plutôt au niveau du micromètre. Oui. Donc, on est plus proche de la boule de billard que de l'Everest. Ouais.
Hein, mais... Ce qui est déjà un renseignement très intéressant, même si c'est un résultat négatif, ça veut dire que la physique de cette physique qui est très complexe, de cette matière très riche en neutrons, des couches externes des étoiles à neutrons, eh bien, ne permet pas d'avoir des montagnes très hautes. Et donc, même si... Voilà, c'est quand même un résultat très intéressant, ce résultat.
Autre, pour conclure vraiment en toute fin, Frédéric Marion, le graal de la détection, ce serait quoi ? Autre hypothèse, les ondes gravitationnelles primordiales ?
Ah oui, ça, effectivement, on peut parler de graal, parce que c'est pas du tout clair quand, comment, si on arrivera à les détecter. Mais, globalement, la physique des premiers instants de l'univers est très peu connue. C'est un peu l'euphémisme de la semaine. Mais on s'attend à ce que quoi que ce soit qui se soit passé puisse avoir engendré des ondes gravitationnelles donc primordiales qui se propageraient encore aujourd'hui dans l'univers. Donc on ne sait pas vraiment dans quelle gamme de fréquences elles pourraient se manifester, mais potentiellement dans toutes les gammes de fréquences. Donc il y a un vrai potentiel d'exploration et de découverte pour tous les types d'instruments, finalement. La difficulté expérimentale est sans doute importante et il faudra arriver aussi à distinguer cet éventuel signal de bruit de mesure et de signaux astrophysiques.
Voilà, c'est une des missions de cet interféromètre spatial LISA. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo, mais un grand merci Frédéric Marion, merci Éric Gourgoulon. Tout de suite, on change complètement de registre. Les éoliennes en mer se multiplient, mais sont-elles sans risque pour l'environnement ? C'est la chronique avec science.
Les éoliennes en mer sont-elles polluantes? Elles poussent partout sur les côtes européennes. La France compte désormais 3 grands parcs mis en service récemment au large de Saint-Nazaire, Saint-Brieuc et Fécamp. Au total, près de 200 éoliennes unitaires peuplent ces parcs. En termes de puissance, notre pays se place en 4e position en Europe, derrière l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Et si ces parcs offshore ont le vent en poupe, c'est pour répondre aux objectifs fixés en matière d'énergie verte. Contrairement aux éoliennes sur le continent, celles en mer sont exposées à un vent plus constant, elles sont plus grandes et plus puissantes et elles sont loin de nos yeux. Moins de conflits d'usage pour les zones où elles sont implantées et pas de nuisances visuelles ou sonores pour les habitants. En revanche, les effets des parcs éoliens sur l'environnement commencent, eux, à être documentés. David van Avermaet est chercheur à l'ILVAU, l'Institut flamand pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation.
Depuis qu'on a des parcs éoliens en mer, on a fait des études de biodiversité. Ça veut dire qu'on a pris des échantillons de poissons, les organismes qui vivent en mer, et alors on les compte et on regarde comment la population change pour avoir une idée quel effet ont les parcs sur les organismes. On regarde aussi les effets, par exemple, d'avoir des gros fils d'électricité en mer, le bruit des éoliennes. Aussi, les éoliennes peuvent avoir des collisions avec les oiseaux, et ça aussi, ça a été étudié. Mais qu'est-ce qui n'a pas vraiment été étudié, c'est en fait l'effet des composants chimiques qui peuvent être lâchés en mer. Et ça, c'est en fait quelque chose que nous, on est les premiers à étudier.
Cette nouvelle étude parue dans Marine Pollution Bulletin est la première à tenter de lister tous les composants chimiques et potentiellement polluants qui pourraient être relâchés en mer par ces parcs éoliens offshore. Il s'agit de la toute première étape pour tenter d'y voir plus clair. Cette étude passe en revue la littérature déjà disponible. Pour cela, des scientifiques de l'ILVAU du côté belge, de l'IFREMER du côté français et du BSH du côté allemand ont lu les articles publiés, mais aussi des rapports et des fiches de données de sécurité pour cataloguer tout ce qui est susceptible de relâcher des composants chimiques. Par exemple, de la base qui fixe l'éolienne au sol ou de ce qui la fait flotter, de l'anode qui sert à faire de l'électricité, les câbles qui la relient à la plateforme électrique, bref, finalement tout ce qui est en contact avec l'eau. Résultat, 228 composés sont ainsi identifiés. En anglais, composé se dit composante, d'où l'anglicisme de ce chercheur, et 62 sont déjà connus pour présenter un risque environnemental.
De ces 228, il y en a 62 qui peuvent être dangereux. Bien sûr, peut être dangereux parce que c'est la concentration dans laquelle on peut le trouver dans l'environnement qui va être très important. Et ceci, on ne connaît pas encore pour l'instant. Donc, en fait, on a donc surtout des composants qu'on retrouve de la peinture même. Ce sont des phénols, par exemple, des composants qu'on va utiliser pour améliorer les propriétés des plastiques. Donc, pour, par exemple, faire que la peinture va pas être trop vite détruit par l'environnement. Peinture, on continue en contact avec la mer, donc automatiquement, ça va être tout le temps relâché en mer aussi. Alors, nous avons aussi des composants qui peuvent être relâchés pendant, par exemple, quand on va faire une maintenance des parcs éoliennes. Et là, on peut avoir des huiles et tout pour que la machinerie à l'intérieur tourne, peuvent être émis en mer. Bien sûr, ce sont des émissions qui ne sont pas continues, c'est plus intermédiaire ou peut-être même accidentelle. Par exemple aussi, qu'est-ce qu'on peut retrouver? C'est des produits qu'on va utiliser pour éteindre les feux, parce que les plateformes sont protégées. Quand il y a un feu, il y a des produits chimiques qui vont être lâchés pour éteindre très vite le feu. Mais bien sûr, ces produits-là peuvent aussi aller en mer. Qu'est-ce qu'on va alors appeler une relâche de produits accidentels?
Le conditionnel est de mise, car il s'agit ici d'une évaluation de tous les produits chimiques susceptibles de passer dans l'environnement. Mais ces scientifiques sont en train de passer à l'étape suivante. Ils ont prélevé des échantillons en mer, selon un protocole standardisé. Concrètement, ils vont comparer de l'eau prélevée près des éoliennes avec de l'eau de référence, afin de mesurer réellement la concentration de ces substances. C'est la première stratégie quand on sait ce qu'on cherche, mais puisque les fabricants ne donnent pas toujours tout le détail de la composition des produits, il faut employer une seconde méthode, moins précise et plus large, pour tenter d'identifier d'autres substances auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais au-delà de cet inventaire, une autre problématique se pose, celle de l'absence de normes harmonisées. Chaque pays applique ses propres règles, souvent lacunaires, et il n'existe pas de réglementation uniforme au niveau européen pour encadrer ces rejets chimiques. Ces scientifiques soulignent donc l'urgence de mettre en place des standards communs afin d'en anticiper ces pollutions émergentes plutôt que de courir après.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute.
Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel à la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Raphaël Rousseau, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.